André, chapitre 10. Henriette, en quittant Geneviève, était allée, pour calmer son petit ressentiment, écouter un sermon d'avait beaucoup de réputation dans le pays, et passer pour un jeune bourdalou, quoique le moindre vieux curé de hameau prêchât beaucoup plus sensément dans son langage rustique. Mais, heureusement pour sa gloire, le vicaire de L avait fait divorce avec le naturel et la simplicité. Son accent théâtral, son débit ronflant, ses comparaisons ampoulées, et surtout la sûreté de sa mémoire, lui avaient valu un succès incontesté, non seulement parmi les dévotes, mais encore parmi les femmes érudites de l'endroit. Quant aux auditeurs des basses classes, ils ne comprenaient absolument rien à son éloquence, mais ils admiraient sur la foi d'autrui. Ce jour-là, le prédicateur, faute de sujet, prêcha sur la charité. Ce n'était pas un bon jour, il y avait peu de monde, il y eut peu de métaphores, et l'amplification fut négligée. Le sermon fut donc un peu plus intelligible que de coutume, et Henriette saisit quelques lieux communs qui furent débités d'ailleurs avec aplomb, d'une voix sonore et sans le moindre lapsus linguae. On sait qu'en province, le lapsus linguae est l'écueil des orateurs et qu'il leur importe peu de manquer absolument d'idées, pourvu que les mots abondent toujours et se succèdent sans hésitation. Henriette fut donc émue et entraînée, d'autant plus que le sujet du sermon s'appliquait précisément à la situation de son cœur. Ce cœur n'avait rien de méchant, et donnait de continuels démentis à un caractère arrogant et jaloux. La pensée de Geneviève malheureuse et méconnue le remplit de regrets et de remords. Le sermon terminé, Henriette résolut d'aller trouver son amie et de réparer autant qu'il serait en elle le chagrin que ses consolations, moitié affectueuses, moitié amères, avaient dû lui causer. Elle prit à peine le temps de souper et courut chez la jeune fleuriste. Elle frappa, on ne lui répondit pas. La clé avait été retirée. Elle crut que Geneviève était sortie, mais au moment de s'en aller, une autre idée lui vint. Elle pensa que Geneviève était enfermée avec son amant, et elle regarda à travers la serrure. Mais elle ne vit qu'une chandelle qui achevait de se consumer dans l'âtre de la cheminée, et le profond silence qui régnait dans l'appartement lui fit pressentir la réalité. Elle poussa donc la porte avec une force un peu mâle, et la serrure, faible et usée, céda bientôt. Elle trouva Geneviève assez malade pour avoir à peine la force de lui répondre, et tandis qu'elle se rendormait avec l'apathie que donne la fièvre, la bonne couturière se hâta d'aller chercher les couvertures de son propre lit pour l'envelopper. Ensuite, elle alluma du feu, fit bouillir des herbes, acheta du sucre avec l'argent gagné dans sa journée et, s'installant auprès de son amie, lui prépara des tisanes de sa composition, auxquelles elle attribuait un pouvoir infaillible. La nuit était tout à fait venue et le coucou de la maison sonnait 9 heures lorsqu'Henriette entendit ouvrir la première porte de l'appartement de Geneviève. La pénétration naturelle à son sexe lui fit deviner la personne qui s'approchait, et elle courut à sa rencontre dans la grande salle vide qui servait d'antichambre à l'atelier de la fleuriste. Le lecteur n'est sans doute pas moins pénétrant qu'Henriette, et comprend fort bien qu'André, n'ayant pas vu Geneviève de la journée, et rôdant depuis 2 heures sous sa fenêtre sans qu'elle s'en aperçût, ne pouvait se décider à retourner chez lui sans avoir au moins échangé un mot avec elle. Quoique l'heure fût indue pour se présenter chez une grisette sage, il monta, et il s'approchait presque aussi tremblant que le jour où il avait frappé pour la première fois à sa porte. Il fut contrarié de rencontrer Henriette, mais il espéra qu'elle se retirerait, et il la saluait en silence, lorsqu'elle le prit presque au collet, et, l'entraînant au bout de la chambre, « Il faut que je vous parle, monsieur André, » dit-elle vivement. « Asseyons-nous. » André céda, tout interdit, et Henriette parla ainsi. « D'abord, il faut vous dire que Geneviève est malade, bien malade. » André devint pâle comme la mort. Oh, cependant, ne soyez pas effrayée, reprit Henriette. Je suis là, j'aurai soin d'elle. Je ne la quitterai pas d'une minute. Elle ne manquera de rien.
Je le crois, ma chère demoiselle, dit André, éperdu. Mais ne pourrais-je savoir quelle est donc sa maladie? Depuis quand? Je vais...
Non pas, non pas, dit Henriette en le retenant. Elle dort dans ce moment-ci, et vous ne la verrez pas avant de m'avoir entendu. Ce sont des choses d'importance que j'ai à vous dire, monsieur André. Il faut y faire attention.
Au nom du ciel, parlez, mademoiselle, s'écria André.
Eh bien, reprit Henriette d'un ton solennel, il faut que vous sachiez que Geneviève est perdue.
Perdue? Juste ciel, elle se meurt?
André s'était levé brusquement. Il retomba anéanti sur sa chaise.
Non, non, vous vous trompez, dit Henriette en le secouant. Elle ne se meurt pas. C'est sa réputation qui est morte, monsieur. Et c'est vous qui l'avez tuée.
Mademoiselle, dit André vivement, que voulez-vous dire? Est-ce une méchante plaisanterie?
Non, monsieur, répondit Henriette en prenant son air majestueux. Je ne plaisante pas. Vous faites la cour à Geneviève et elle vous écoute. Ne dites pas non, tout le monde le sait. Et Geneviève en est convenue avec moi aujourd'hui.
André, confondu, garda le silence.
Eh bien, reprit Henriette avec chaleur, croyez-vous ne pas faire tort à une fille en venant tous les jours chez elle, en lui donnant des rendez-vous dans les prés? Vous draguez jour et nuit autour de sa maison, soit pour entrer, soit pour vous donner l'air d'être reçu à toutes les heures.
Qui a dit cette impertinence? S'écria André. Qui a inventé cette fausseté?
C'est moi qui ai dit cette impertinence, répondit Henriette intrépidement, et je n'invente aucune fausseté. Je vous ai vu 20 fois traverser le jardin d'en face, et je sais que tous les jours vous passez 2 ou 3 heures dans la chambre de Geneviève.
Eh bien, que vous importe? S'écria André, chez qui la timidité était souvent vaincue par une humeur irritable. De quel droit vous mêlez-vous de ce qui se passe entre Geneviève et moi? Êtes-vous la mère ou la tutrice de l'un de nous?
Non, dit Henriette en élevant la voix. Mais je suis l'amie de Geneviève, et je vous parle en son nom.
En son nom? Dit André, effrayé de l'emportement qu'il venait de montrer.
Et au nom de son honneur, qui est perdu, je vous dis.
Et vous avez tort d'oser le dire, reprit André en colère, car c'est un mensonge infâme.
Henriette, en colère à son tour, frappa du pied.
Comment? S'écria-t-elle. Vous avez le front de dire que vous ne lui faites pas la cour, quand cette pauvre enfant est diffamée et montrée au doigt dans toute la ville, quand les demoiselles de la première société refusent de dîner sur l'herbe avec elle et lui tournent le dos dès qu'elle ouvre la bouche, quand tous les garçons crient qu'il faut l'insulter en public, qu'elle le mérite pour avoir trompé tout le monde et pour avoir méprisé ses égaux.
Qu'ils y viennent! S'écria André, transporté de colère.
Ils y viendront, et vous aurez beau monter la garde et en assommer une douzaine. Geneviève l'aura entendu. Tout le monde autour d'elle l'aura répété. La blessure sera sans remède. Elle aura reçu le coup de la mort.
Mon Dieu, s'écria André en joignant les mains. Que je suis malheureux!
Quoi? Geneviève est désolée à ce point? Sa vie est en danger, peut-être, et j'en suis la cause.
Vous devez en avoir du regret, dit Henriette.
Ah, si tout mon sang pouvait racheter sa vie, si le sacrifice de toutes mes espérances pouvait assurer son repos.
Eh bien, dit Henriette d'un air profondément ému. Si cela est vrai, de quoi vous affligez-vous? Qu'y a-t-il de désespéré?
Mais que faire? Dit André avec angoisse.
Comment? Vous le demandez? Aimez-vous Geneviève?
Peut-on en douter? Je l'aime plus que ma vie.
Êtes-vous un homme d'honneur?
Pourquoi cette question, mademoiselle?
Parce que si vous aimiez Geneviève, et si vous étiez un honnête homme, vous l'épouseriez.
André, éperdu, fit une grande exclamation et regarda Henriette d'un air effaré.
Eh bien, s'écria-t-elle, voilà votre réponse? c'est celle de tous les hommes monstres que vous êtes. Que Dieu vous confonde !»«
Ma réponse ?» dit André, lui prenant la main avec force. « Ai-je répondu ? Puis-je répondre ? Geneviève consentirait-elle jamais à m'épouser ?»«
Comment ?» dit Henriette avec un éclat de rire. « Si elle consentirait, une fille dans sa position, et qui sans cela serait forcée de quitter le pays ?»«
Oh non, jamais, si cela dépend de moi !» s'écria André, éperdu de terreur et de joie.
« L'épouser, moi ? Elle consentirait à m'épouser ?»«
Ah, vous êtes un bon enfant !» s'écria Henriette, se jetant à son cou, transportée de joie et d'orgueil en voyant le succès de son entreprise.
« Ah, ça, mon bon monsieur André, votre père donnera-t-il son consentement ?»
André pâlit et recula d'épouvante au seul nom de son père. Il resta silencieux et atterré jusqu'à ce qu'Henriette renouvelât sa question. Alors il répondit « Non » d'un air sombre, et ils se regardèrent tous deux avec consternation, ne trouvant plus un mot à dire pour se rassurer mutuellement. Enfin, Henriette, ayant réfléchi, lui demanda quel âge il avait.
« 25 ans, répondit-il.
« Eh bien, vous êtes majeur, vous pouvez vous passer de son consentement. »
« Vous avez raison, dit-il, enchanté de cet expédient. « Je m'en passerai. J'épouserai Geneviève sans qu'il le sache. »
« Oh !» dit Henriette en secouant la tête. « Il faut pourtant bien qu'il vous donne le moyen de payer vos habits de noces. Mais j'y pense, n'avez-vous pas l'héritage de votre mère ?»«
Sans doute, répondit-il, frappé d'admiration. J'ai droit à 60 000 francs.
« Diable ! S'écria Henriette. « C'est une fortune ! Oh, ma bonne Geneviève ! Oh, mon cher André ! Comme vous allez être heureux ! Et comme je serai contente d'avoir arrangé votre mariage !»«
Excellente fille ! S'écria André à son tour. « Sans vous, je ne me serais jamais avisée de tout cela, et je n'aurais jamais osé espérer un pareil sort. Mais êtes-vous sûre que Geneviève ne refusera pas ?»
« Que vous êtes fou ! Est-ce possible, quand elle est malade de chagrin ? Ah, cette nouvelle-là va lui rendre la vie !»«
Je crois rêver, » dit André en baisant les mains d'Henriette.
« Et, oh, je ne pouvais pas me le persuader, j'aurais trop craint de me tromper. Et pourtant, elle m'écoutait avec tant de bonté, elle prenait ses leçons avec tant d'ardeur. Oh, Geneviève !» Que ton silence et le calme de tes grands yeux m'ont donné de craintes et d'espérances. Fou et malheureux que j'étais, je n'osais pas me jeter à ses pieds et lui demander son cœur. Le croiriez-vous, Henriette ? Depuis un an, je meurs d'amour pour elle, et je ne savais pas encore si j'étais aimée. C'est vous qui me l'apprenez, bonne Henriette. Ah, dites-le-moi encore.
Belle question ! Dit Henriette en riant. Après qu'une fille a sacrifié sa réputation à monsieur, il demande si on l'aime. Vous êtes trop modeste, ma foi. Et à la place de Geneviève, car vous êtes tout à fait gentil avec votre air tendre. Mais chut, la voilà qui s'éveille. Attendez-moi là.
Et pourquoi n'irai-je pas avec vous ? Je suis un peu médecin, moi. Je saurai ce qu'elle a, car je suis horriblement inquiet.
« Ma foi, écoutez, dit Henriette, j'ai envie de vous laisser ensemble. Elle n'a pas d'autre mal que le chagrin. Quand vous lui aurez dit que vous voulez l'épouser, elle sera guérie. Je crois que cette parole-là vaudra mieux que toutes mes tisanes. Allez, allez, dépêchez-vous de la rassurer. Je m'en vais. Je reviendrai savoir le résultat de la conversation. »
« Oh, pour Dieu, ne me laissez pas ainsi, dit André effrayé.
Je n'oserai jamais me présenter devant elle maintenant et lui dire ce qui m'amène, si vous ne l'avertissez pas un peu.
« Comme vous êtes timide !» dit Henriette étonnée.
« Vraiment, voilà des amoureux bien avancés, et c'est bien la peine de me dire tant de mal de vous deux.
Les pauvres enfants. Allons, je vais toujours voir comment va la malade. »
Henriette entra dans la chambre de son amie. André resta seul dans l'obscurité, le cœur bondissant de trouble et de joie. Chapitre 11. La maladie de Geneviève n'était pas sérieuse. Une irritation momentanée lui avait causé un assez violent accès de fièvre, mais déjà son sang était calmé, sa tête libre, et il ne lui restait de cette crise qu'une grande fatigue et un peu de faiblesse dans la mémoire. Elle s'étonna de voir Henriette la soulever dans ses bras, l'accabler de questions et lui présenter son infaillible tisane. Sa surprise augmenta lorsque Henriette, toujours disposée à l'amplification, lui parla de sa maladie, du danger qu'elle avait couru. « Eh, mon Dieu !» dit la jeune fille. « Depuis quand donc suis-je ainsi ?»«
Depuis 3 heures au moins, » répondit Henriette.
« Ah oui !» reprit Geneviève en souriant. « Mais rassure-toi, je ne suis pas encore perdue. J'ai la tête un peu lourde, l'estomac un peu faible, et voilà tout. Je crois que si je pouvais avoir un bouillon, je serais tout à fait sauvée.
J'ai un bouillon tout près sur le feu, le voici, dit Henriette en s'empressant autour du lit de Geneviève, avec la satisfaction d'une personne contente d'elle-même.
Mais j'ai quelque chose de mieux que cela. C'est une grande nouvelle à t'annoncer.
Ah, merci, ma chère enfant, donne-moi ce bouillon, mais garde ta grande nouvelle. J'en ai assez pour aujourd'hui. Tout ce qui peut se passer dans cette jolie ville m'est indifférent. Je ne veux que tes soins et ton amitié. Pas de nouvelles, je t'en prie.
Tu es ingrate, Geneviève, si tu savais de quoi il s'agit. Mais je ne veux pas te désobéir, puisque tu me défends de parler. Je suppose aussi que tu aimeras mieux entendre cela de sa bouche que de la mienne.
De sa bouche ? Dit Geneviève en levant vers elle sa jolie tête pâle, coiffée d'un bonnet de mousseline blanche.
« De qui parles-tu? Es-tu folle ce soir? C'est toi qui as la fièvre, ma chère fille. »«
Oh, tu fais semblant de ne pas me comprendre, » répondit Henriette. « Cependant, quand je parle de lui, tu sais bien que ce n'est pas d'un autre.
Allons, apprends la vérité. Il attend que tu veuilles le recevoir. Il est là. »
« Comment ? Il est là ? Qui est là, chez moi, à cette heure-ci ? »
« Monsieur André de Morand, est-ce que tu as oublié son nom pendant ta maladie ?»«
Henriette, Henriette, » dit tristement Geneviève,
« je ne vous comprends pas. Vous êtes en même temps bonne et méchante. Pourquoi cherchez-vous à me tourmenter ? Vous me trompez. Monsieur de Morand ne vient jamais chez moi le soir. Il n'est pas ici. »
Il est ici, dans la chambre à côté. Je te le jure sur l'honneur, Geneviève.
En ce cas, dis-lui, je t'en prie, que je suis malade et que j'aurai le plaisir de le voir un autre jour.
Oh, cela est impossible. Il a quelque chose de trop important à te dire. Il faut qu'il te parle tout de suite et tu en seras bien aise. Je vais le faire entrer.
Non, Henriette, je ne le veux pas. Ne voyez-vous pas que je suis couchée? Et trouvez-vous qu'il soit convenable à une fille de recevoir ainsi la visite d'un homme? Il est impossible que M. de Morand ait quelque chose de si pressé à me dire.
Cela est certain pourtant. Si tu le renvoies, il en sera désespéré, et toi-même tu t'en repentiras.
Cette journée est un rêve, dit Geneviève d'un ton mélancolique, et je dois me résigner à tomber de surprise en surprise. « Reste près de moi, Henriette, je vais m'habiller et recevoir Monsieur de Morand. »«
Tu es trop faible pour te lever, ma chère. Quand on est malade, on peut bien causer en bonnet de nuit avec son futur mari. Vas-tu faire la prude ?»«
Je consens à passer pour une prude, » dit Geneviève avec fermeté, « mais je veux me lever. » En peu d'instants, elle fut habillée et passa dans son atelier. Henriette la fit asseoir sur le seul fauteuil qui décora ce modeste appartement, l'enveloppa de son propre manteau, lui mit un tabouret sous les pieds, l'embrassa et appela André. Geneviève ne comprenait rien à ses manières étranges et à ses affectations de solennité. Elle fut encore plus surprise lorsqu'André entra d'un air timide et irrésolu, la regarda tendrement sans rien dire, et, poussée par Henriette, finit par tomber à genoux devant elle.
« Qu'est-ce donc ?
dit Geneviève embarrassée. « De quoi me demandez-vous pardon, monsieur le marquis? Vous n'avez aucun tort envers moi. »
« Je suis le plus coupable des hommes, » répondit André en tâchant de prendre sa main qu'elle retira doucement.
« Et le plus malheureux, » ajouta-t-il, « si vous me refusez la permission de réparer mes crimes. »
« Quel crime avez-vous commis ? » dit Geneviève avec une douceur un peu froide.
« Henriette, je crains bien que vous n'ayez fait ici quelque folie et importuné monsieur de Morand des ridicules histoires de ce matin. » S'il en est ainsi...
N'accusez pas Henriette, interrompit André. C'est notre meilleure amie. Elle m'a averti de ce que j'aurais dû prévoir et empêcher. Elle m'a appris les calomnies dont vous étiez l'objet, grâce à mon imprudence. Elle m'a dit le chagrin auquel vous étiez livré.
Elle a menti, dit Geneviève avec un rire forcé. Je n'ai aucun chagrin, monsieur André. Et je ne pense pas que dans tout ceci, il y ait le moindre sujet d'affliction pour vous et pour moi.
Ne l'écoutez pas, dit Henriette. Voilà comme elle est, orgueilleuse au point de mourir de chagrin plutôt que d'en convenir. Au reste, je vois que c'est ma présence qui la rend si froide avec vous. Je m'en vais faire un tour. Je reviendrai dans une heure. Et j'espère qu'elle sera plus gentille avec moi. Au revoir, Geneviève la princesse. « Tu es une méchante, tu méconnais tes amis. »
Elle sortit en faisant des signes d'intelligence à André. Geneviève fut choquée de son départ, autant que de ses discours, mais elle pensa qu'il y aurait de l'affectation à la retenir, puisque tous les jours elle recevait André tête à tête. Quand ils furent seuls ensemble, André se sentit fort embarrassé. L'air étonné de Geneviève n'encourageait guère la déclaration qu'elle avait à lui faire. Enfin, il rassembla tout son courage et lui offrit son cœur, son nom et sa petite fortune en réparation du tort immense qu'il lui avait fait par ses assiduités. Geneviève fut moins étonnée qu'elle ne l'eût été la veille d'une semblable ouverture. Le caquet d'Henriette l'avait préparé à tout. Elle n'entendit pas sans plaisir les offres du jeune marquis. Elle avait conçu pour lui une affection véritable, une haute estime. Et quoiqu'elle n'eût jamais désiré lui inspirer un sentiment plus vif, elle était flattée d'une résolution qui annonçait un attachement sérieux. Mais elle pensa bientôt qu'André cédait à un excès de délicatesse dont il pourrait avoir à se repentir. Elle lui répondit donc, avec calme et sérénité, qu'elle ne se croyait pas assez peu de choses pour que son honneur fût à la disposition des sots et des bavards, que leurs propos ne l'atteignaient point, et qu'il n'avait pas plus à réparer sa conduite qu'elle à rougir de la sienne.
« Je le sais, » lui répondit-il, « mais souvenez-vous de ce que vous m'avez dit un jour. Vous êtes sans famille, sans protection, les méchants peuvent vous nuire et rendre votre position insoutenable. »
Vous aviez raison, mademoiselle. Vous voyez qu'on vous menace. J'aurais beau me multiplier pour vous défendre, l'insulte n'en arrivera pas moins jusqu'à vous. Il suffit d'un mot pour que mon bras vous soit une égide et réduise vos ennemis au silence. Ce mot fera en même temps le bonheur de ma vie. Si ce n'est par amitié pour moi, dites-le au moins par intérêt pour vous-même.
Non, monsieur André, répondit doucement Geneviève en lui laissant prendre sa main. Ce mot ne ferait pas le bonheur de votre vie. Au contraire, il vous rendrait peut-être éternellement malheureux. Je suis pauvre, sans naissance. Malgré vos soins, j'ai encore bien peu d'éducation. Je vous serais trop inférieure, et comme je suis orgueilleuse, je vous ferais peut-être souffrir beaucoup. D'ailleurs, votre famille ferait sans doute des difficultés pour me recevoir, et je ne pourrais me résoudre à supporter ces dédains.
Oh, froide et cruelle Geneviève, s'écria André. Vous ne pourrez rien supporter pour moi quand moi je traverserai l'univers pour contenter un de vos caprices, pour vous donner une fleur ou un oiseau. Oh, vous ne m'aimez pas.
Pourquoi me dites-vous cela? Répondit Geneviève. Avez-vous bien besoin de mon amitié?
« Cœur de glace !» s'écria André. « Vous m'avez parlé avec tant de confiance et de bonté. Nous avons passé ensemble de si douces heures d'études et d'épanchements. Et vous n'aviez pas même de l'amitié pour moi ?»«
Vous savez bien le contraire, André, » lui répondit Geneviève d'un ton ferme et franc, en lui tendant sa main qu'il couvrit de baisers.
« Mais ne pouvez-vous croire à mon amitié sans m'épouser ? Si l'un de nous doit quelque chose à l'autre, c'est moi qui vous dois une vive reconnaissance pour vos leçons. »«
Eh bien, » s'écria André, « acquittez-vous avec moi et soyez généreuse. Acquittez-vous au centuple, soyez ma femme. »
« C'est un prix bien sérieux, » répondit-elle en souriant, « pour des leçons de botanique et de géographie. Je ne savais pas qu'en apprenant ces belles choses-là, je m'engageais au mariage. »
« Nous nous y engagions l'un et l'autre aux yeux du monde, » dit André. « Nous ne l'avions pas prévu. Mais puisqu'on nous le rappelle, cédons, vous par raison, moi par amour. »
Il prononça ce dernier mot si bas que Geneviève l'entendit à peine.
« Je crains, lui dit-elle, que vous ne preniez un mouvement de loyauté romanesque pour un sentiment plus fort. Si nous étions du même rang, vous et moi, si notre mariage était une chose facile et avantageuse à tous deux, je vous dirais que je vous aime assez pour y consentir sans peine. Mais ce mariage sera traversé par 1000 obstacles. Il causera du scandale, ou au moins de l'étonnement. Votre père s'y opposera peut-être, et je ne vois pas quelle raison assez forte nous avons l'un et l'autre pour braver tout cela. Une grande passion nous en donnerait la force et la volonté, mais il n'y a rien de tout cela entre nous. Nous n'avons pas d'amour l'un pour l'autre.
« Juste ciel, que dit-elle donc ? » s'écria André au désespoir.
« Elle ne m'aime pas et elle ne sait pas seulement que je l'aime. »«
Pourquoi pleurez-vous ? » lui dit Geneviève avec amitié. « Je vous afflige donc beaucoup ? Ce n'est pas mon intention. »
« Et ce n'est pas votre faute non plus, Geneviève. Je suis malheureux de n'avoir pas senti plus tôt que vous ne m'aimiez pas. Je croyais que vous compreniez mon amour et que vous aviez quelque pitié puisque vous ne me repoussiez pas. »
Est-ce un reproche, André? Hélas, je ne le mérite pas. Il aurait fallu être vaine pour croire à votre amour. Vous ne m'en avez jamais parlé.
Est-ce possible? Je ne vous ai jamais dit, jamais fait comprendre que je ne vivais que pour vous, que je n'avais que vous au monde.
Ce que vous dites est singulier, dit Geneviève après un instant d'émotion et de silence.
Pourquoi m'aimez-vous tant? Comment ai-je pu le mériter? « Qu'ai-je fait pour vous ?»«
Vous m'avez fait vivre, » répondit André. « Ne m'en demandez pas davantage. Mon cœur sait pourquoi il vous aime, mais ma bouche ne saurait pas vous l'expliquer. Et puis vous ne me comprendriez pas. Si vous m'aimiez, vous ne me demanderiez pas pourquoi je vous aime. Vous le sauriez comme moi, sans pouvoir le dire. »
Geneviève garda encore un instant le silence. Ensuite, elle dit
« Il faut que je sois franche, je vous l'avoue. Dans les premiers jours, vous étiez si émue en entrant ici, et vous paraissiez si affligée quand je vous priais de cesser vos visites, que je me suis presque imaginée une ou deux fois que vous étiez amoureux. Cela me faisait une espèce de chagrin et de peur. Les amours que je connais m'ont toujours paru si malheureux et si coupables que je craignais d'inspirer une passion trop frivole ou trop sérieuse. J'ai voulu vous fuir et me défendre de vos leçons, mais l'envie d'apprendre a été plus forte que moi, et...
Quel cruel aveu vous me faites, Geneviève! C'est à votre amour pour l'étude que je dois le bonheur de vous avoir vu pendant ces 2 mois? Et moi, je n'y étais donc pour rien?
Laissez-moi achever, lui dit Geneviève en rougissant.
Comment voulez-vous que je réponde à cela? Je vous connaissais si peu. À présent, c'est différent. Je regretterai le maître autant que la leçon.
Autant? Pas davantage?
Ah, vous n'aimez que la science, Geneviève. Vous avez une intelligence avide.
un cœur bien calme.
« Mais non, pas froid, lui dit-elle. Je ne mérite pas ce reproche-là.
Que vous disais-je donc ?
Que vous aviez presque deviné mon amour dans les commencements, et qu'ensuite...
Ensuite, je vous revis tout changé. Vous aviez l'air grave, vous causiez tranquillement, et si vous vous attendrissiez, c'était en m'expliquant la grandeur de Dieu et la beauté de la terre. Alors je me rassurais, j'attribuais vos anciennes manières à la timidité ou à quelques idées de roman qui s'étaient effacées à mesure que vous m'aviez mieux connue.
« Et vous vous êtes trompé, dit André. Plus je vous ai vu, plus je vous ai aimé. Si j'étais calme, c'est que j'étais heureux, c'est que je vous voyais tous les jours et que tous les jours je comptais sur un heureux lendemain. C'est que les seuls beaux moments de ma vie sont ceux que j'ai passés ici et auprès Giraud. Ah, vous ne savez pas depuis combien de temps je vous aime et combien, sans cet amour, je serais resté malheureux. » Alors, André, encouragé par le regard doux et attentif de Geneviève, lui raconta les ennuis de sa jeunesse, lui peignit la situation de son esprit et de son cœur avant le jour où il l'avait vue pour la première fois au bord de la rivière. Il lui raconta aussi l'amour qu'il avait eu pour elle depuis ce jour-là, et Geneviève n'y comprit rien.
« Comment cela peut-il se passer dans la tête d'une personne raisonnable ? » lui dit-elle.
« J'ai souvent entendu lire, à Paris, dans notre atelier, des passages de romans qui ressemblaient à cela. Mais je croyais que les livres avaient seuls le privilège de nous amuser avec de semblables folies. »«
Ah, Geneviève !» lui dit André tristement. « Il y a dans votre âme une étincelle encore enfouie. Vous avez la candeur d'un enfant, et ce qu'il y a de plus cruel et de plus doux dans la vie, vous l'ignorez. Ce qu'il y a de plus beau en vous-même, rien ne vous l'a encore révélé. C'est que vous n'avez pas encore entendu une voix assez pure pour vous charmer et vous convaincre. C'est que l'amour n'a parlé devant vous qu'une langue grossière ou puérile. Oh, qu'il serait heureux celui qui vous ferait comprendre ce que c'est qu'aimer. Si vous l'écoutiez, Geneviève, s'il pouvait vous initier à ces grands secrets de l'âme comme à une merveille de plus dans les œuvres du Tout-Puissant, il vous le dirait à genoux, et il mourrait de bonheur le jour où vous lui direz « J'ai compris ». Geneviève regarda André en silence, comme le jour où il lui avait parlé pour la première fois des étoiles et de la pluralité des mondes. Elle pressentait encore un monde nouveau, et elle cherchait à le deviner avant d'y engager son cœur. André vit sa curiosité et il espéra. « Laissez-moi vous expliquer encore ce mystère. Je n'oserais guère parler moi-même, je serais trop au-dessous de mon sujet. Mais je vous lirai les poètes qui ont su le mieux ce que c'est que l'amour. Et si vous m'interrogez, mon cœur essaiera de vous répondre. » Et pendant ce temps, lui dit Geneviève en souriant. « Les médisants se tairont. On les priera d'attendre, pour recommencer leurs injures, que j'ai appris ce que c'est que l'amour, et que je puisse leur dire si je vous aime ou non. »
« Non, Geneviève, on leur dira dès demain que je vous adore, que vous avez un peu d'amitié pour moi, que je demande à vous épouser et que vous y consentez. »
« Mais si l'amour ne me vient pas, dit Geneviève,
« alors vous ferez, en m'acceptant, un mariage de raison, et je mettrai tous mes soins à vous assurer le bonheur calme que vous craignez de perdre en aimant. »
« Oh, André, vous êtes bon !» dit Geneviève en serrant doucement les mains brûlantes d'André. « Mais je vous crains sans savoir pourquoi. Je ne sais si c'est moi qui suis trop indifférente ou vous qui êtes trop passionnée. J'ai peur de mon ignorance même. » Et ne sait quel parti prendre.
Celui que vous dictera votre cœur, n'avez-vous pas seulement un peu de compassion ?
Mon cœur me conseille de vous écouter, répondit Geneviève avec abandon. Voilà ce qu'il y a de vrai.
André baisait encore ses mains avec transport lorsque Henriette rentra.
Eh bien,
s'écria-t-elle en voyant la joie de l'un et la sérénité de l'autre. « Tout est arrangé. À quand la noce ?»«
C'est Geneviève qui fixera le jour, » répondit André.
« Vous pouvez, ma chère Henriette, le dire demain dans toute la ville. »
« Oh, s'il ne s'agit que de cela, soyez en paix. Il n'est pas minuit. Demain, avant midi, il n'y aura pas une mauvaise langue qui ne soit mise à la raison.
Oh, quelle joie! Quelle bonne nouvelle pour ceux qui t'aiment! Car tu as encore des amis, ma bonne Geneviève.
Monsieur Joseph, qui ne t'aimait pas beaucoup autrefois, il faut l'avouer, se conduit comme un ange maintenant à ton égard. »
Il ne souffre pas qu'on dise un mot de travers devant lui sur ton compte. Et c'est un gaillard.
Qu'est-ce que je dis donc? C'est un brave jeune homme qui sait se faire écouter quand il parle.
C'est par amitié pour M. André qu'il agit ainsi, dit Geneviève.
Je ne l'en remercie pas moins. Tu le lui diras de ma part, car je suppose que tu lui parles quelquefois, Henriette.
Ah, des malices! « Comment? Tu t'en mêles aussi, Geneviève. Il n'y a plus d'enfants. Il faut bien te passer cela, puisque te voilà bientôt marquise. »
« Ne te presse pas tant de me faire ton compliment, ma chère, et ne publie pas si vite cette belle nouvelle. C'est encore une plaisanterie, et nous ne savons pas si nous ne ferons pas mieux, Monsieur André et moi, de rester amis comme nous sommes. »«
Qu'est-ce qu'elle dit là ? » s'écria Henriette. « Est-ce que vous vous jouez de nous, monsieur le marquis ? Est-ce que ce n'était pas sérieusement que vous parliez ?»
Elle était au moment de lui faire une scène, mais il la rassura et lui dit qu'il espérait vaincre les hésitations de Geneviève. Il la pria même de l'aider, et Henriette, en se rengorgeant, répondit de tout.
« N'ai-je pas déjà bien avancé vos affaires ? » dit-elle.
« Sans moi, cette petite sucrée que voilà !» aurait toujours fait semblant de ne pas vous comprendre, et vous seriez encore là à vous morfondre sans oser parler. »
Les plaisanteries d'Henriette embarrassaient Geneviève. Elle se plaignit d'être un peu fatiguée, refusa les offres de sa compagne, qui voulait passer la nuit auprès d'elle, l'embrassa tendrement et toucha légèrement la main d'André en signe d'adieu.
« Comment, c'est comme cela que vous vous séparez ? » s'écria Henriette.
« Un jour de fiançailles, par exemple. Vous ne vous aimez donc pas ?»«
Qu'est-ce qu'elle veut dire ?» demanda André à Geneviève en s'efforçant de prendre de l'assurance, mais en tremblant malgré lui.
« Et vraiment, on s'embrasse !» dit Henriette. « De beaux amoureux qui ne savent pas seulement cela. »
« Si l'usage l'ordonne, » dit André avec émotion, «
« est-ce que vous n'y consentirez pas, mademoiselle ?»«
Mais savez-vous, » dit Geneviève gaiement, « qu'Henriette ira le dire demain dans toute la ville ?»«
Raison de plus, » dit André un peu rassuré. « Ce sera un engagement que vous aurez signé et qui donnera plus de poids à la nouvelle de notre mariage. »«
Oh, en ce cas, je refuse, » dit-elle. « Je ne veux rien signer encore. »
« Eh bien, par amitié, » reprit André, qui déjà la tenait dans ses bras.
« Comme vous avez embrassé Henriette tout à l'heure. »«
Par amitié seulement, » répondit Geneviève en se laissant embrasser.
André fut si troublé de ce baiser qu'il comprit à peine ensuite comment il était sorti de la chambre. Il se trouva dans la rue avec Henriette sans savoir ce qu'était devenu l'escalier. Cependant, lorsqu'il se rappela plus tard cet instant d'enivrement, il s'y mêla un souvenir pénible. Geneviève avait un peu rougi par pudeur, mais son regard était resté serein, sa main fraîche, et son cœur n'avait pas tressailli.
« C'est ma Galatée, » se disait-il, « mais elle ne s'est animée que pour regarder les cieux. Descendra-t-elle de son piédestal et voudra-t-elle poser ses pieds sur la terre auprès de moi ?»
Cependant, l'espérance, qui ne manque jamais à la jeunesse, le consola bientôt. Geneviève, avec un si noble esprit, ne pouvait pas avoir un cœur insensible. Cette tranquillité d'âme tenait à la chasteté exquise de ses pensées, à ses habitudes solitaires et recueillies. il avait déjà vu se réaliser un de ses plus beaux rêves. Il était le conseil et la lumière de cette sainte ignorance. Maintenant, un vœu plus enivrant lui restait à accomplir. C'était de se placer entre elle et la divinité universelle qu'il lui avait fait connaître. Il fallait cesser d'être le prêtre et devenir le Dieu lui-même. L'enthousiasme d'André, les palpitations de son cœur, allaient au-devant d'un pareil triomphe, et son âme, avide d'émotions tendres, ne pouvait pas croire à l'inertie d'une autre âme. De son côté, Geneviève ressentait un peu d'effroi. Les paroles d'André, ses caresses timides, son accent passionné, lui avaient causé une sorte de trouble, et quoiqu'elle désirât presque éprouver les mêmes émotions, elle avait par instant comme une certaine méfiance de cette exaltation dont elle n'avait jamais conçu l'idée et dont elle craignait de n'être jamais capable. Cependant, il est si doux de se sentir aimé que Geneviève s'abandonna sans peine à ce bien-être nouveau. Elle s'habitua à penser qu'elle n'était pas seule au monde, qu'une autre âme sympathisait à toute heure avec la sienne, et que désormais elle ne porterait plus seule le poids des ennuis et des maux de la vie. Elle fit ses réflexions en s'habillant le lendemain, et en comparant cette matinée à la journée précédente, elle s'avoua qu'il lui avait fallu un certain courage pour supporter les soucis de la veille, et que cette nouvelle journée s'annonçait douce et calme sous la protection d'un cœur dévoué. « Après tout, se dit-elle, André est sincère. S'il s'exagère à lui-même aujourd'hui l'amour qu'il a pour moi, du moins il lui restera toujours assez d'honnêteté dans le cœur pour me garder son amitié. Je ne cesserai pas de la mériter. Pourquoi me l'ôterait-il? Et puis, que sais-je? Pourquoi refuserais-je de croire aux belles paroles qu'il me dit? Il en sait bien plus que moi sur toute chose, et il doit mieux juger que moi de l'avenir. » En se parlant ainsi à elle-même, et tout en se coiffant devant une petite glace, elle regardait ses traits avec curiosité, et prit même son miroir pour l'approcher de la fenêtre. Là, elle contempla de près ses joues fines et transparentes comme le tissu d'une fleur, et elle s'aperçut qu'elle était jolie. « Quelquefois je l'avais cru, » pensa-t-elle, « mais je ne savais pas si c'était de la jeunesse ou de la beauté. Cependant, pour qu'André, après m'avoir vu un instant, soit resté amoureux de moi tout un an, il faut bien que j'aie quelque chose de plus que la fraîcheur de mon âge. André aussi a une jolie figure. Comme il avait de beaux yeux hier soir, et comme ses mains sont blanches, comme il parle bien. Quelle différence entre lui et Joseph, et tous les autres !» Elle resta longtemps pensive devant sa glace, oubliant de relever ses cheveux épars. Ses joues étaient animées, et un sourire charmant l'embellissait encore. Elle s'était levée tard, et la matinée était avancée. André entra dans la première pièce sans qu'elle l'entendît, et elle s'aperçut tout à coup qu'il était passé dans l'atelier. Il avait toussé pour l'appeler. Alors, elle se leva si précipitamment qu'elle fit tomber son miroir et poussa un cri. André, effrayé du bruit que fit la glace en se brisant, et surtout du cri échappé à Geneviève, crut qu'elle se trouvait mal et s'élança dans la chambre. Il la trouva debout, vêtue de sa robe blanche et toute couverte de ses longs cheveux noirs. Le premier mouvement de Geneviève fut de rire en voyant la terreur d'André pour une si faible cause. Mais bientôt elle fut toute confuse de la manière dont il la regardait. Il ne l'avait jamais vue si jolie. Le bonnet qu'elle portait toujours, comme les grisettes de elle, avait empêché André de savoir si sa chevelure était belle. En découvrant cette nouvelle perfection, il resta naïvement émerveillé. Et Geneviève devint toute rouge sous ses longs cheveux fins et lisses qui tombaient le long de ses joues. « Allez-vous-en, » lui dit-elle, « et pendant que je vais me coiffer, cherchez dans l'atelier une rose que j'ai faite hier soir. La nuit est venue et la fièvre m'a prise comme je l'achevais. Je ne sais où je l'aurais laissée. Vous l'avez peut-être écrasée sous vos pieds dans vos conférences avec Henriette. »
« Dieu m'en préserve !» dit André.
Et obéissant à regret, il chercha sur la table de l'atelier. La précieuse rose y était négligemment couchée au milieu des outils qui avaient servi à la créer. André fit un grand cri, et Geneviève, épouvantée, s'élança à son tour dans l'atelier avec ses cheveux toujours dénoués. Elle trouva André qui tenait la rose entre deux doigts et la contemplait dans une sorte d'extase.
« Ah, ça, vous avez voulu me rendre la pareille !» lui dit-elle. « À quel jeu jouons-nous ?»«
Geneviève !»« Geneviève !» répondit-il. « Voici un chef-d'œuvre. À quelle heure et sous l'influence de quelle pensée avez-vous fait cette rose de Bengale ? Quel sylphe a chanté pendant que vous y travailliez ? Quel rayon de soleil en a coloré les feuilles ?»«
Je ne sais pas ce que c'est qu'un sylphe, » répondit Geneviève. « Mais il y avait dans ma chambre un rayon de soleil qui me brûlait les yeux et qui, je crois, m'a donné la fièvre. Je ne sais pas comment j'ai pu travailler et penser à tant de choses en même temps. Voyons donc cette rose. Je ne sais pas comment elle est. »
« C'est une chose aussi belle dans son genre, » répondit André, « que l'œuvre d'un grand maître. C'est la nature rendue dans toute sa vérité et dans toute sa poésie. Quelle grâce dans ses pétales mous et pâles! Quelle finesse dans l'intérieur de ce calice! Quelle souplesse dans tout ce travail! Quelles étoffes merveilleuses employez-vous donc pour cela, Geneviève? Certainement les fées s'en mêlent un peu.
Les demoiselles de la ville me font présent de leurs plus fins mouchoirs de batiste quand ils sont usés, et avec de la gomme et de la teinture.
Je ne veux pas savoir comment vous faites, ne me le dites pas, mais donnez-moi cette rose et ne mettez pas votre bonnet.
Vous êtes fou aujourd'hui. Prenez cette rose. C'est en effet la meilleure que j'ai faite. Je ne pensais pas à vous en la faisant.
André la regarda d'un air boudeur et vit sur sa figure une petite grimace moqueuse. Il courut après elle et la saisit au moment où elle lui jetait la porte au nez. Quand il la tint dans ses bras, il fut fort embarrassé, car il n'osait ni l'embrasser ni la laisser aller. Il vit sur son épaule ses beaux cheveux qu'il baisa.
« Quel être singulier !» dit Geneviève en rougissant. « Est-ce qu'on n'a jamais baisé des cheveux ?»
Chapitre 12. On pense bien qu'André, dans ses nouvelles leçons, ne s'en tint pas à la seule science. Ses regards, l'émotion de sa voix, sa main tremblante en effleurant celle de Geneviève, disaient plus que ses paroles. Peu à peu, Geneviève comprit ce langage, et les battements de son cœur y répondirent en secret. Après lui avoir révélé les lois de l'univers et l'histoire des mondes, il voulut l'initier à la poésie, et par la lecture des plus belles pages, sut la préparer à comprendre Goethe, son poète favori. Cette éducation fut encore plus rapide que la précédente. Geneviève saisissait à merveille tous les côtés poétiques de la vie. Elle dévorait avec ardeur les livres qu'André prenait pour elle dans la petite bibliothèque de M. Forêt. Elle se relevait souvent la nuit pour y rêver en regardant le ciel. Elle appliquait à son amour et à celui d'André les plus belles pensées de ses poètes chéris. Et cette affection, d'abord paisible et douce, se revêtit bientôt d'un éclat inconnu. Geneviève s'éleva jusqu'à son amant. Mais cette égalité ne fut pas de longue durée. Plus neuve encore et plus forte d'esprit, elle le dépassa bientôt. Elle apprit moins de choses, mais elle lui prouva qu'elle sentait plus vivement que lui ce qu'elle savait. Et André fut pénétré d'admiration et de gratitude. Il se sentit heureux bien au-delà de ses espérances. Il vit naître l'enthousiasme dans cette âme virginale et reçut dans son sein les premiers épanchements de cet amour qu'il avait enseigné. Cependant, Henriette avait été colportée en tout lieu
la nouvelle du prochain mariage d'André avec Geneviève. Le premier à qui elle en fit part fut Joseph Marteau. Et au grand étonnement de la couturière, celui-ci fit une exclamation de surprise où n'entrait pas le moindre signe de joie ou d'approbation.
« Comment, cela ne vous fait pas plaisir ?» dit Henriette. « Vous ne me remerciez pas d'avoir réussi à marier votre amie avec la plus jolie et la plus aimable fille du pays ?»
Joseph secoua la tête.
« Cela me paraît, dit-il, la chose la plus folle que vous ayez pu inventer. Quel diable d'idée avez-vous eue, là ?»«
Fi, monsieur, je ne comprends pas l'indifférence que vous y mettez. »
« Cela ne m'est pas indifférent, répondit Joseph. J'en suis fort contrarié, au contraire.
« Êtes-vous fou aujourd'hui ? » s'écria Henriette. « Ne vous ai-je pas entendu, hier encore, dire que vous n'estimiez réellement Geneviève que depuis qu'elle aimait M. André ? N'avez-vous pas travaillé vous-même à rendre M. André amoureux d'elle ? Qui est cause de leur première entrevue ? Est-ce vous ou moi ? Ne m'avez-vous pas prié d'amener Geneviève chez vous ? Pour que M. André pût la voir ?
Mais non pas l'épouser, reprit Joseph avec une franchise un peu brusque.
Oh, quelle horreur ! S'écria Henriette. Je vous comprends maintenant, monsieur. Vous êtes un scélérat, et je ne vous reparlerai de ma vie. Juste Dieu ! Séduire une fille et l'abandonner, cela vous paraît très naturel et juste. Mais l'épouser quand on l'a perdue de réputation, vous appelez cela une diable d'idée, une invention folle. Ah, je vois le danger où je m'exposais en souffrant vos galanteries. Mais Dieu merci, il est encore temps de m'en préserver. Pauvre fille que nous sommes. C'est ainsi qu'on abuse de notre candeur et de notre crédulité. Vous n'abuserez pas ainsi de moi, monsieur Joseph. Adieu. Adieu pour toujours. Et Henriette s'enfuit, furieuse et désespérée. Joseph se promit de l'apaiser une autre fois, et il chercha André. Mais pendant bien des jours, André fut introuvable. Il passait le temps où il était forcé de quitter Geneviève à courir les prés comme un fou, et à pleurer d'amour et de joie à l'ombre de tous les buissons. Enfin Joseph le joignit un matin, comme il allait franchir la porte de sa bien-aimée, et à son grand déplaisir, il l'entraîna dans le jardin voisin.
Ah, ça, lui dit-il, es-tu fou ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Dois-je en croire les bavardages d'Henriette et ceux de toute la ville ? As-tu l'intention sérieuse d'épouser Geneviève ?
Certainement, répondit André avec candeur.
Quelle question me fais-tu là ?
Allons, dit Joseph, c'est une folie de jeune homme à ce que je vois. Mais heureusement, il est encore temps d'y songer. As-tu réfléchi un peu, mon cher André ? Sais-tu quel âge tu as ? Connais-tu ton père ? Espères-tu lui faire accepter une grisette pour belle-fille ? Crois-tu que tu auras seulement le courage de lui en parler ?
« Je n'en sais rien, répondit André un peu troublé de cette dernière question. Mais je sais que j'ai droit à un petit héritage de ma mère, et que cela suffira pour m'enrichir au-delà de mes besoins et de ceux de Geneviève.
« Idée de roman, mon cher ! On peut vivre avec moins, mais quand on a vécu dans une certaine aisance, il est dur de se voir réduit au nécessaire. Songes-tu que ton père est jeune encore ? Qu'il peut se remarier ? Avoir d'autres enfants ? Te déshériter ? Songes-tu que tu auras des enfants toi-même ? Que tu n'as pas d'état ? Que tu n'auras pas de quoi les élever convenablement ? Et que la misère te tombera sur le corps à mesure que l'amour te sortira du cœur ?
Jamais il n'en sortira, s'écria André. Il me donnera le courage de supporter toutes les privations, toutes les souffrances.
Bah, bah, reprit Joseph, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu n'as jamais souffert, jamais jeûné.
Je la prendrai, s'il le faut.
Et Geneviève la prendra aussi ?
Je travaillerai pour elle.
À quoi ? Fais-moi le plaisir de me dire à quelle profession tu es propre. As-tu fait ton droit ? As-tu étudié la médecine ? Pourrais-tu être professeur de mathématiques ? Saurais-tu au moins faire des bottes, ou même tracer un sillon droit avec la charrue ?
Je ne sais rien d'utile, je l'avoue, repartit André.
Je n'ai vécu jusqu'ici que de lecture et de rêverie. Je ne suis pas assez fort pour exercer un métier, mais le peu que je possède pourra me mettre à l'abri du besoin.
Essaie-en, et tu verras.
Je compte en essayer. Joseph frappa du pied avec chagrin.
Et c'est moi qui t'ai mis cette sottise d'amour en tête, s'écria-t-il. Je ne me le pardonnerai jamais. Pouvais-je penser que tu prendrais au sérieux la première occasion de plaisir offerte à ta jeunesse?
J'étais donc un lâche et un misérable à tes yeux?
Tu croyais que je consentirais à voir diffamer Geneviève sans prendre sa défense et sans réparer le mal que je lui aurais fait?
On n'est pas un lâche et un misérable pour cela, dit Joseph en haussant les épaules.
Je ne crois être ni l'un ni l'autre, et pourtant je fais la cour à Henriette, tout le monde le sait, et je la laisse tant qu'elle veut se bercer de l'espoir d'être un jour Madame Marteau. Je veux être son amant, et voilà tout.
Vous pouvez parler d'Henriette avec légèreté. Quoique je n'approuve pas le mensonge, je vous trouve excusable jusqu'à un certain point. Mais établissez-vous la moindre comparaison entre elle et Geneviève?
Pas la moindre. J'aime Henriette à la folie, et il n'y a pas un cheveu de Geneviève qui me tente. Je n'entends rien à ces sortes de femmes.
Mais je comprends ta situation. Tu es le premier amant de Geneviève, et tu lui dois plus qu'à tout autre. Rassure-toi cependant, tu ne seras pas le dernier, et il n'y a pas de fille inconsolable.
Je ne connais pas les autres filles, et vous ne connaissez pas Geneviève. Nous ne pouvons pas raisonner ensemble là-dessus. Agis avec Henriette comme tu voudras. Je me conduirai avec Geneviève comme Dieu m'ordonne de le faire.
Joseph s'épuisa en remontrances, sans ébranler la résolution de son ami. Il le quitta pour aller faire la paix avec Henriette et se consola de l'imprudence d'André en se disant tout bas
« Heureusement, ce n'est pas encore fait. La grosse voix du marquis n'a pas encore tonné. »
Cet événement ne se fit pas longtemps attendre. Des amis officieux eurent bientôt informé M. de Morand de la passion de son fils pour une grisette. Malgré sa haine pour cette espèce de femme, il s'en inquiéta peu d'abord. Il fut même content jusqu'à un certain point de voir André renoncer à ses rêves d'expatriation. Mais quand on lui eut répété plusieurs fois que son fils avait manifesté l'intention sérieuse d'épouser Geneviève, quoiqu'il lui fût encore impossible de le croire, il commença à se sentir mécontent de cette espèce de bravade et résolut d'y mettre fin sur le champ. Un matin, donc, au moment où André franchissait, joyeux et léger, le seuil de sa maison pour aller trouver Geneviève, une main vigoureuse saisit la bride de son petit cheval et le fit même reculer. Comme il faisait à peine jour, André ne reconnut pas son père au premier coup d'œil, et pour la première fois de sa vie, il se mit à jurer contre l'insolent qui l'arrêtait.
« Doucement, monsieur, répondit le marquis. Vous me semblez bien mal appris pour un bel esprit comme vous êtes. Faites-moi le plaisir de descendre de cheval et d'ôter votre chapeau devant votre père. »
André obéit. Et quand il eut mis pied à terre, le marquis lui ordonna de renvoyer son cheval à l'écurie.
« Faut-il le débrider ? Demanda le palefrenier.
« Non, dit André, qui espérait être libre au bout d'un instant.
« Il faut lui ôter la selle !» cria
le marquis d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. André se sentit gagné par le froid de la peur. Il suivit son père jusqu'à sa chambre.
« Où alliez-vous ? »
lui dit celui-ci en s'asseyant lourdement sur son grand fauteuil de toile d'orange.
« À elle !» répondit André timidement.
« Chez qui ? » ?»«
Chez Joseph. » répondit André après un peu d'hésitation.
« Où allez-vous tous les matins ?»«
Chez Joseph. »«
Où passez-vous toutes les après-midi ?»«
À la chasse. »«
D'où venez-vous si tard tous les soirs ?»«
De chez Joseph et de la chasse, n'est-ce pas ?»«
Oui, mon père. »«
Avec votre permission, monsieur le savant, vous en avez menti. Vous n'allez ni chez Joseph ni à la chasse. »
Auriez-vous en votre possession quelques beaux livres écrits sur l'art de mentir? faites-moi le plaisir d'aller l'étudier dans votre chambre, afin de vous en acquitter un peu mieux à l'avenir. M'entendez-vous ? »
André, révolté de se voir traité comme un enfant, hésita, rougit, pâlit et obéit. Son père le suivit, l'enferma à double tour, mit la clé dans sa poche et s'en fut à la chasse. André, furieux et désolé, maudit mille fois son sort et finit par sauter par la fenêtre. Il s'en alla passer une heure au pied de Geneviève. Mais dans la crainte de l'effrayer de la dureté de son père, il lui cacha son aventure et lui donna, pour raison de sa courte visite, une prétendue indisposition du marquis. Le marquis fit bonne chasse, oublia son prisonnier et rentra assez tard pour lui laisser le temps de rentrer le premier. Lorsqu'il le retrouva sous les verrous, il se sentit fort apaisé et l'emmena souper assez amicalement avec lui, croyant avoir remporté une grande victoire et signalé sa puissance par un acte éclatant. André, de son côté, ne montra guère de rancune. Il croyait avoir échappé à la tyrannie et s'applaudissait de sa rébellion secrète comme d'une résistance intrépide. Ils se réconcilièrent en se trompant l'un l'autre et en se trompant eux-mêmes, l'un se flattant d'avoir subjugué, l'autre s'imaginant avoir désobéi. Le lendemain, André s'éveilla longtemps avant le jour, et, se croyant libre, il allait reprendre la route de L, quand son père parut, comme la veille, un peu moins menaçant seulement. « Je ne veux pas que tu ailles à la ville aujourd'hui, » lui dit-il. « J'ai découvert un taillis tout plein de bécasses. Il faut que tu viennes avec moi en tuer 5 ou 6. »
« Vous êtes bien bon, mon père, » répondit André, « mais j'ai promis à Joseph d'aller déjeuner avec lui. »
« Tu déjeunes avec lui tous les jours, » répondit le marquis d'un ton calme et ferme. « Il se passera fort bien de toi pour aujourd'hui. Va prendre ton fusil et la carnassière. »
Il fallut encore qu'André se résigna. Son père le tint à la chasse toute la journée, lui fit faire 10 lieues à pied et l'écrasa tellement de fatigue qu'il eut une courbature le lendemain, et que le marquis eut un prétexte excellent pour lui défendre de sortir. Le jour suivant, il l'emmena dans sa chambre, et, ouvrant le livre de ses domaines sur une table, il le força de faire des additions jusqu'à l'heure du dîner. Vers le soir, André espérant être libre, son père le mena voir tondre des moutons. Le 4e jour, Geneviève, ne pouvant résister à son inquiétude, lui écrivit quelques lignes, les confia à un enfant du voisinage qu'elle chargea d'aller les lui remettre. Le message arriva à bon port. Quoique Geneviève, ne prévoyant pas la situation de son amant, n'eût pris aucune précaution contre la surveillance du marquis. Le hasard protégea le petit page aux pieds nus de Geneviève, et André lut ces mots, qui le transportèrent d'amour et de douleur. « Ou votre père est dangereusement malade, ou vous l'êtes vous-même, mon ami. Je m'arrête à cette dernière supposition, avec raison et avec désespoir. Si vous étiez bien portant, vous m'écririez pour me donner des nouvelles de votre père et pour m'expliquer les motifs de votre absence. Vous êtes donc bien mal. » Puisque vous n'avez pas la force de penser à moi et de m'épargner les tourments que j'endure. Oh, André, 4 jours sans te voir. À présent, c'est impossible à supporter sans mourir. » André sentit renaître son courage. Il viola sans hésitation la consigne de son père et courut à travers champs jusqu'à la ville. Il arriva, plus fatigué par les terres labourées, les haies et les fossés qu'il avait franchis, qu'il ne l'eût été par le plus long chemin. Poudreux et haletant, il se jeta aux pieds de Geneviève et lui demanda pardon en la serrant contre son cœur. « Pardonne-moi, pardonne-moi, » lui disait-il. « Oh, pardonne-moi de t'avoir fait souffrir. » « Mais je n'ai rien à vous pardonner, André, » lui répondit-elle. Quel tort pourriez-vous avoir envers moi? Je ne vous accuse pas, je ne vous interroge même pas. Comment pourrais-je supposer qu'il y a de votre faute dans ceci ?
Je vous vois et je remercie Dieu.